On a encore la suite sur la série sur les armes et la puissance de Dieu à notre disposition. La parole de Dieu, elle déborde de toutes sortes de promesses de Dieu ou d'enseignements de la parole de Dieu qui sont là pour nous équiper, frères et sœurs. Ce matin, on continue cette pensée-là, à découvrir les armes et la puissance de Dieu à notre disposition en tant que chrétien. Aujourd'hui, on va faire un survol sur l'armure du chrétien. L'armure du chrétien qu'on voit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18. On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est rassemblés. Puis je te remercie de ce que tu prépares dans nos vies, de ce que tu fais dans nos vies. À chaque réunion, on est béni, on est rencontré, on est édifié, on est fortifié. On reçoit de ton esprit, on reçoit de ta parole, on reçoit de la communion fraternelle. Merci Seigneur de vouloir faire de nous des soldats inébranlables, une équipe qui travaille ensemble, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. On remet nos vents entre tes mains pour que tu parles à nos cœurs par ton message encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va voir des éléments, mais c'est juste un survol, parce que dans ce passage, dans cette série d'enseignements-là sur l'armure du chrétien, il pourrait avoir une prêche sur chacun des points de cette armure-là. Mais on va faire un petit survol rapide pour passer à travers, comme dans un seul message. On va aller lire le passage dans Éphésiens 6, le verset 10 à 18. Vous allez voir que ce qui est écrit là, il est important. Pourquoi? Parce qu'on est en guerre. Contre qui? Contre le diable et ses démons. On est en guerre, frères et sœurs. Puis cette armure-là a été écrite par l'apôtre Paul comme un enseignement pour que tous les chrétiens puissent s'encourager à rechercher cela pour avoir la victoire contre le diable. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et, à partir du verset 10, Éphésiens 6, le verset 10. Et, par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin, là vous allez voir que c'est ça qui est le but, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voyez-vous comment c'est important de l'avoir, cette armure-là? Tenez donc ferme! Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela qu'une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Là-dedans, dans ces passages-là, tu sais qu'on en a parlé un peu à matin, on a à combattre contre le diable, mais le diable, lui, il n'est pas omniprésent comme Dieu. Quand on parle d'omniprésent, c'est que Dieu, lui, est partout en même temps, dans tout l'univers. Tout l'univers est maintenu à l'intérieur de Dieu. Fait que Dieu, partout où tu vas, il est là. Mais le diable, non. Le diable, c'est un ange, c'est un chérubin qui est déchu. Il est à un seul endroit à la fois. Mais la Bible nous dit, il faut tenir ferme contre les ruses du diable. C'est clair que c'est pas toujours le diable en personne qui vient contre nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable, il n'est pas tout seul. Il y a une multitude d'archanges et d'anges qui se sont rebellés contre Dieu, puis que ça nous dit dans ces versets-là, il appelle ça des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, puis les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont une multitude établie en position, en hiérarchie, puis sur des pays, sur des villes, sur des familles. Ils règnent selon où ce qu'ils peuvent régner. Puis ils sont en contrôle de beaucoup de choses puis que Dieu, par son autorité et son pouvoir, et par l'action de ses anges, et par l'action des enfants de Dieu qui prennent autorité dans le nom de Jésus, puis qui prient, puis qui intercèdent, ça repousse la puissance des ténèbres, puis on remporte des victoires. Il y a des âmes qui sont arrachées des mains des ténèbres, qui sont sauvées par le sang de Jésus. Il y a des gens qui changent de camp, qui changent de royaume, qui sortent du royaume de l'emprise du diable, puis qui rentrent dans le royaume de la lumière, dans le royaume de Dieu. On voit que il y a un combat, il y a une guerre qui est là, puis on a à lutter contre ces démons-là. Puis il y en a, comme la Bible elle dit, il y en a 2/3 des anges de Dieu qui sont encore avec Dieu, mais il y en a 1/3 qui sera rebellé, puis qui suit le diable. Puis il représente le diable. Fait que quand la Bible a dit « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera », on peut comprendre là-dedans que c'est pas nécessairement le diable en personne. Ça peut être un de ces démons qui est là, qui rôde autour de nous, puis qui peuvent nous attaquer selon les accès qu'on leur laisse. Il est important que les chrétiens réalisent qu'ils sont en guerre contre la puissance des ténèbres. Non seulement qu'on est en guerre, mais il faut aussi comprendre qu'on a la puissance de Dieu à notre disposition, l'armure du chrétien, avec tous les effets positifs que ça peut nous équiper pour qu'on soit solide, inébranlable, équipé. Vous avez sûrement déjà vu les films... pas les films de cap et d'épée, mais les films comme dans le temps de Camelot, là. Puis là, ils ont des armures en fer. T'arrives avec un petit bâton, puis tu lui donnes un coup, ça y fait rien. Tu prends un gros bâton, ça y fait rien. Pang! Ça donne un coup sur l'armure. Le gars, il sent presque rien. Quand t'es revêtu de ton armure, il y a beaucoup de coups que ça te fait quasiment rien. Puis si t'as un bouclier en plus de ça, même les flèches peuvent pas t'atteindre. C'est construit assez solide pour résister à tout. Si tu es bien équipé puis tu sais comment utiliser ton armure, tu es quasiment invincible. Dieu a déjà mis à notre disposition, en tant que chrétien, un armure pour nous rendre invincibles sur cette terre. En autant qu'on en est tous revêtis et qu'on sache qu'on peut se l'utiliser puis combattre avec cette armure-là. Si on part au combat et qu'on n'est pas revêtu de l'armure, parce qu'on n'a pas compris qu'il y en a une armure, ben on va en manger une volée.
C'est sûr, parce que les anges qui travaillent, les anges qui sont rendus sur le côté du diable, sont pareils comme les nôtres. Ça fait qu'il faut avoir la différence pour être anticipé, puis bien la vie.
Puis quand il y a des anges de l'ennemi, les démons, nous attaquent, mais il faut avoir de quoi de puissant pour les renverser. Parce que j'ai pas été capable encore, par mes mains nues, de pogner un démon par le collet puis de l'accoter au mur. Ça, t'es pas capable, ça marche pas. Tu as besoin des armes de Dieu pour contrer ses attaques puis le contre-attaquer. C'est ça qu'on va découvrir que Paul, il s'est servi de cet exemple-là. Il veut équiper les chrétiens pour qu'on soit solide dans le Seigneur, inébranlable. D'où vient cette armure-là? Mais ça le dit au verset 10, c'est par sa force toute puissante que ça devient. Puis dans le verset 11, c'est toutes les armes de Dieu. Fait que d'où ce que ça vient, c'est des armes de Dieu, puis c'est par sa force toute puissante qu'on peut être équipé. C'est pas quelque chose que tu y as le faire des poids et à le terre, ça sert à rien pour combattre les esprits. Pour combattre dans le monde invisible, l'exercice corporel ne sert à rien. C'est de l'exercice spirituel qui peut nous apporter quelque chose. Quel est le but de l'armure? Mais on voit au verset 11, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. On a affaire à quelqu'un de rusé. Puis dans, comme clairement a dit, ou c'est Vito qui a prêché ça l'autre jour, que le mot ruse, c'est des tactiques. Il est équipé avec des tactiques bien précises pour attaquer chaque personne individuellement dans leur point faible. Oui, c'est le maître manipulateur, puis il connaît chacun de nos points faibles, puis quand il s'y prend d'avance pour venir nous attaquer, il connaît nos points faibles, puis il sait comment intervenir. Une petite parole qu'on entend de quelqu'un, une autre parole qu'on entend de quelqu'un, puis là, il met un effet spécial que lui met un coup d'épée ou une flèche qui t'envoie, puis t'es empoisonné, tes émotions sont empoisonnées. Là, tu réagis tout croche, tu comprends pas pourquoi t'es rendu agressif, ou que t'es rendu amer, ou t'es rendu en critique, ou t'es rendu en train de juger tout le monde, puis c'est une attaque du diable qui t'a lancé, puis t'injecte des pensées, puis là, on est manipulé parce qu'il nous prend dans nos points faibles. Pour tenir ferme contre ses tactiques, ces ruses, on a besoin de cette armure-là. Il dit dans quel est le but? C'est parce qu'on a à lutter contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ça, ils sont là. Le prince de la puissance de l'air qu'on voit présentement ici, c'est le diable et ses démons. Puis pour quel but aussi, un autre but au verset 13, ça nous dit, le but qu'on doit avoir cette armure-là, c'est d'afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça, c'est des tentations, des épreuves, des attaques. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les chrétiens ont besoin d'être équipés pour résister. Pensons pas d'être capable de résister sans chercher à être rempli du Saint-Esprit et sans être équipé de la connaissance de la parole de Dieu. Si on va pas chercher les armes de Dieu, on persévérera pas dans la foi jusqu'à la fin. C'est sûr que vous allez vous faire entrer dedans. C'est sûr que votre vie va être bafouée d'à gauche et à droite, puis vous allez être une risée au point de vue du diable tellement qu'il va vous manipuler, vous utiliser, puis vous en rendrez même pas compte. Vous allez dire, votre bouche va sortir des paroles qui vont empoisonner les autres. Vous allez être une personne qui attaque même les frères et sœurs sans s'en rendre compte, en train de détruire l'œuvre de Dieu. On a besoin de réaliser qu'on a besoin de la puissance de Dieu pour tenir ferme, parce que quand ça vient l'attaque, faut que tu restes debout. C'est pas normal qu'un chrétien qui a 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, qui est toujours couché au plancher, à premier claque qu'il reçoit. C'est pas normal. À un moment donné, dans le Seigneur, on réalise les promesses de Dieu, on sait qu'on est sauvé, puis on se laisse plus ébranler par toutes sortes d'affaires. On est capable de rejeter un paquet de choses, puis on tombe pas au tapis à chaque fois qu'on entend un mot qui nous décourage. Comprenez-vous? On a besoin d'être assez solide qu'il peut se passer n'importe quoi autour de nous. Comme Job, par exemple, il a perdu sa famille, il a perdu sa richesse, il a perdu sa santé, puis il est encore debout par la foi. Puis il glorifie encore son Dieu. C'est de même qu'il faut devenir solide à toute épreuve, qu'il n'y a rien qui va nous faire tomber. On a besoin d'être équipés, frères et sœurs, pour rester debout, parce que ce qu'on vit présentement, là, nous sommes dans la ouate. Il n'y a aucune persécution, aucune tribulation vraiment terrible dans nos vies. C'est pas arrivé là, que du monde sont venus, ont cassé vite, puis ont donné une volée à tout le monde ici, là, puis qu'il y en a tué 3-4 dans notre gang. C'est pas arrivé, mais ça arrive dans d'autres pays. Les chrétiens ont ces épreuves-là à vivre. Il faut qu'ils persévèrent dans la foi, puis il faut qu'ils restent debout, faut pas qu'ils tombent à terre, puis découragés, puis qu'ils abandonnent le Seigneur. Non, peu importe ce qui arrive, faut être encore capable de rester debout. Il y a une sœur qui a rendu témoignage ici à Montréal dernièrement qu'elle était dans sa famille avec son mari, puis était chrétien, puis il y a du monde qui sont rentrés dans la maison, ils ont attaqué son mari, ils ont tué son mari devant elle. Puis les deux étaient chrétiens, puis lui a dit, « Père, pardonne-leur juste avant de mourir. » Puis cette femme-là a continué à persévérer dans la foi, puis elle répand son témoignage dans les églises pour raconter qu'elle est encore là aujourd'hui en train de servir le Seigneur malgré les attaques qu'elle a vécues. C'est quelque chose d'horrible et de terrible, puis elle est peut-être marquée dans sa tête avec ces images-là pour toute sa vie. Mais elle est encore là en train de servir le Seigneur. Elle a besoin d'une force qui vient pas du monde normal. Ça vient de Dieu. C'est ça qu'on a besoin, frères et sœurs. Puis on ne parle pas de ça aujourd'hui, mais préparez-vous à ce que sur la terre, qu'il y ait des phénomènes terribles, des cataclysmes, des choses qu'on n'aura jamais vues au point de vue financier, les systèmes monétaires vont tomber, les banques ne fonctionneront plus. Ça va être terrible pour ce qui vient sur la terre. On a besoin d'apprendre à se confier en Dieu, puis être capable de passer à travers puis garder la foi, peu importe ce qui arrive. Gloire à Dieu. Alléluia. À qui cela s'adresse-t-il, toutes ces armes-là? Ça s'adresse à chaque individu qui veut suivre le Seigneur. À cause que, humainement parlant, nous sommes plus faibles que les démons, puis que nous avons besoin de ces éléments-là pour devenir plus forts dans le Seigneur. Ça vient de Dieu, cette armure-là. Quelle est la responsabilité de chaque chrétien pour la recevoir, cette armure-là? Est-ce que c'est Dieu qui va faire ça tout seul, sans qu'on ait un effort quelconque? On voit au verset 10, « Fortifiez-vous », verset 11, « Revêtez-vous », verset 13, « Prenez », verset 14, « Ayez », »,« Revêtez », verset 15, « Mettez », verset 16, « Prenez », verset 17, « Prenez ». Ça vient au bout de quel résultat? Ça vient au bout de nos efforts pour l'obtenir. C'est quelque chose qu'on doit aller chercher, cette armure-là. C'est pas là automatiquement. Si on réalise pas que c'est là, on n'aura pas de force pour passer à travers qu'est-ce qu'on aura traversé. Bien que ces armes viennent de Dieu et elles sont à notre disposition, nous devons les saisir. C'est pas le pasteur qui va les saisir pour vous. C'est pas moi qui va les saisir pour vous. Chacun de vous, individuellement, vous êtes responsable de votre propre vie, dans vos décisions, dans votre recherche, dans les efforts que vous allez faire pour y arriver. Là, on va examiner rapidement chacun des éléments de l'armure. C'est des belles affaires. Puis j'ai compris que Dieu veut nous équiper suite à nos efforts ou à notre recherche. Mais tout provient de la parole de Dieu, puis de notre foi, notre attitude face à la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Comment pouvons-nous nous tenir droit devant Dieu sans se sentir accusés par l'ennemi? Qu'est-ce que j'ai besoin pour que je me sente que je suis ferme? J'ai besoin de la vérité comme ceinture, ceinte mes reins. Ça, les reins, c'est ce qui nous permet de se tenir debout puis de se tenir droit. Quand tu es dans l'attaque, tu vois les haltérophiles, ceux qui lèvent des poids et haltères, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent une ceinture après les reins, une grosse ceinture de cuivre. C'est quoi son but? C'est de solidifier les reins pour qu'ils restent droits. Pour pas que le dos, il vienne tout croche, puis le poids, là, puis que là, il tombe à terre écrasé. Mais Dieu veut nous équiper d'une ceinture qui nous permet de rester debout, peu importe la situation qui nous arrive. Puis qu'est-ce c'est cette ceinture qui est présentée là? Ça nous dit d'avoir la vérité comme ceinture. Nous devons, en tant que chrétiens, demeurer dans la vérité. Jean 17, 17, ça nous dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Il dit « Ta parole est la vérité ». Donc, c'est le devoir de chaque chrétien d'être proche de la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu. On doit chercher à apprendre à connaître ce qu'il y a dans la parole de Dieu afin de demeurer dans la parole de Dieu. C'est facile de dire « Ah, ben moi, je suis le Seigneur ». Puis la personne, elle connaît même pas un seul verset de la Bible. C'est pas normal. Tu suis quoi, en fin de compte? Tu suis juste l'idée que tu suis le Seigneur si tu connais pas quels sont les éléments des enseignements du Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est de connaître le Seigneur, connaître sa parole, puis d'obéir à sa parole, marcher avec sa parole, avoir confiance à sa parole. C'est ça qui est de marcher dans la vérité. Quand quelqu'un est équipé puis qu'il connaît la Bible, tu parles d'un sujet puis il te répond avec des versets. Il est saint de vérité. Il est solide dans la foi à cause qu'il a la ceinture de vérité. Il est équipé de versets qu'il connaît. Puis quand il arrive une situation, il sait que, mettons qu'il est marié, puis là, il y a une femme qui s'en vient pour lui donner, faire des avances. Il connaît qu'est-ce que Dieu pense de ce sujet-là, puis il est capable de dire non, puis il est capable de rejeter ces situations-là avec sagesse, parce qu'il sait que c'est quoi la volonté de Dieu. Voyez-vous? Mais ça, je donne un exemple, mais toute notre vie est une suite de décisions qu'on prend chaque jour, puis il est important que nos décisions soient basées sur la vérité. Puis si un enfant de Dieu veut être solide dans le Seigneur, il faut qu'il connaisse la Bible. Il faut qu'il connaisse la parole de Dieu. On peut pas sortir de là. Puis je le dis un petit peu à notre honte, il y a des religions qui sont pas évangéliques, qui connaissent plus la Bible que les chrétiens. Ils étudient la Bible plus qu'un soir par semaine pour trouver des points où ils peuvent ostiner avec le point, puis tordre des versets, puis être capable de la défendre avec le manière qu'ils l'ont étudié. C'est une manière fausse et mal comprise, mais ils les apprennent par cœur, puis ils sont équipés avec des versets capables de démolir les autres. Nous, nous sommes les défenseurs de la vérité. On devrait être capable de connaître la parole. « Ouais, tu me dis ça. » Oui, mais il est aussi écrit telle chose. Puis à cause de ce verset-là, ça vient de renverser ton faux raisonnement. Voyez-vous, il faut être capable de la connaître, la parole. C'est important. Dans Éphésiens 4, 25, ça dit, là, on va voir un autre élément que d'être dans la vérité. Là, c'est pas juste connaître la parole de Dieu. C'est le premier élément, c'est de la connaître, mais le deuxième, c'est de la mettre en pratique, parce que Éphésiens 4, 25, ça dit, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. » On veut être fort dans le Seigneur, on veut être équipé, on veut se fortifier les uns les autres. Il n'y a pas de place pour le mensonge. Tu veux être saint de vérité, faut que ça soit la vérité qui sort de ta bouche. Qui est le père du mensonge? Le diable. Chaque fois qu'une personne raconte un mensonge, elle était directement inspirée par le diable. Exact. On doit faire attention à ce qu'on laisse sortir de notre bouche, parce qu'on peut être, en comptant des menteries, on peut être un outil du diable pour détruire les chrétiens. On veut solidifier par avoir nos reins saints de la vérité. Il faut que entre chrétiens, puis même je parle pas entre chrétiens, entre n'importe quelle relation que vous vivez, vous devez en tout temps demeurer dans la vérité. Amen. On n'a pas de place pour le mensonge. Saint de vérité, c'est que tu connais la parole de Dieu. Puis quand tu rouvres la bouche, tu ne parles que de la vérité. Il n'y a pas de place pour le diable dans cela. Vous allez vous fortifier dans le Seigneur si vous marchez dans ce chemin-là. 1 Jean 3,18, ça nous dit aussi encore dans la pratique, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Si tu veux être vraiment dans la vérité, saint de vérité, tu connais la parole de Dieu, tu parles que des choses vraies, et quand tu vis la vie chrétienne, ta vie sincèrement, de tout ton cœur, d'une manière vraie. Si on est un visage à deux faces, dans le sens qu'on est avec des chrétiens, on vit comme des chrétiens, on s'en va dans le monde, c'est notre travail, puis on vit comme une personne dans le monde, puis on compte des jokes de sexe, puis on vit tout croche, on écoute des films porno, on flirte les autres femmes, on ment, on fraude au gouvernement dans notre rapport d'impôt, on est tout croche dans toute notre conduite. Nous ne marchons pas dans la vérité. Tu veux devenir fort dans le Seigneur, tu veux résister contre les ruses du diable, reste vrai, marche dans la vérité. Puis quand tu marches dans l'amour, c'est un amour, action et vérité. C'est pas juste des mots. Je vous aime. C'est facile à dire ça. Puis le cœur est même pas là. Puis que là, dans notre cœur, même on pourrait méditer comment je pourrais faire pour aller... Puis, il faire une pause, là, puis il voler ses affaires. Puis c'est pas juste entre chrétiens, là, c'est avec nos relations avec les gens en dehors de l'Église. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir voir si on est des vrais chrétiens, si on est voleur, menteur, puis on pète des crises, puis on est méchant? C'est à l'amour qu'ils vont reconnaître, un vrai amour sincère, ils vont reconnaître que nous sommes vraiment ses disciples. Puis là, le diable n'aura pas aucune place à venir vous attaquer. Si on vit tout croche, on donne des accès au diable, puis il rentre dans notre vie, il nous utilise, il parle par notre bouche, on sème le trouble puis le mal partout où ce qu'on passe, puis on casse tout au lieu de construire avec Dieu. Ça, faut le réaliser, frère et sœur. Le diable, c'est un rusé, il connaît nos points faibles, puis il nous manipule si on ne le voit pas venir. Si on veut être vrai, frère et sœur, faut ceindre de la vérité, parler dans la vérité, vivre comme de vrais chrétiens. Là, je vais passer tout de suite à l'autre point, mais si nous nous tenons dans la vérité, dans notre bouche et dans notre conduite, la puissance de Dieu nous soutiendra et nous donnera pas d'accès à l'ennemi. Ça donnera pas d'accès à l'ennemi. Puis Dieu va te bénir, il va t'aider, puis il va combattre avec toi. Si tu marches tout croche, t'es comme livré à toi-même. Des fois, le Saint-Esprit, il est attristé de notre conduite, puis que là, il nous regarde aller, puis on ressent même plus, on n'entend même plus rien de ce que l'Esprit veut nous dire. Le deuxième point qu'on doit comprendre de l'armure, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice... Quelle partie du corps que la cuirasse? Ça, c'est toute la poitrine. Une cuirasse, c'est une partie de l'armure qui te protège. Ça protège quoi? Tes points vitaux, particulièrement ton cœur. C'est de notre cœur que sortent il y a un verset qui dit ça, là. C'est de notre cœur, là. Non, il y a un nom, c'est... Oui, mais pas cela, c'est de notre cœur sortent les chemins de la vie, une affaire comme ça. Les sources de la vie. Puis là, on doit garder notre cœur parce que c'est de notre cœur qui peut faire que là, on pense mal ou on pense bien, ou qu'on pense croche, ou on pense pas vraiment selon les pensées de Dieu, puis là, on est ébranlé. Mais d'avoir la justice, comprendre c'est quoi d'avoir la justice, ça a deux sens. Ça a la justice qui est déclarée juste. Hein, c'est ce qu'on voit de même dans Romains 4:6, ça nous dit « De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux celui dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » C'est que Dieu donne à une personne d'être déclarée juste. Et quand tu sais que devant Dieu tu es déclaré juste pas à cause que tu étais meilleur, pas à cause que tu as pratiqué la loi de Dieu, on était tous des pécheurs. Mais à cause qu'on a cru en Jésus-Christ, que le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés, nous savons que nous sommes justes. Qu'est-ce que ça va avoir si je sais que je suis injuste devant Dieu et que je me tiens à jour avec Dieu en confessant mes fautes? Je vais avoir une assurance, une protection même contre les doutes que le diable pourrait venir semer dans notre cœur. Qui a jamais eu un doute dans sa foi chrétienne? Vous avez jamais eu de doute dans votre foi chrétienne? Qui a jamais eu de doute? Tout le monde, étant chrétien, a eu des passes dans leur vie qu'un doute était semé. Peu importe qu'est-ce qui s'est passé, là, puis que le doute est venu. Qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir de ce doute-là? En le rejetant, mais mettons, ton doute t'amène à pas être capable de rejeter. Faut revenir à quoi pour se baser devant Dieu? Faut se baser à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous a donné comme promesse. On le sait que le sang de Jésus nous purifie. Heureux l'homme que Dieu impute la justice sans ses œuvres. Dieu va dire que cette personne-là est juste sans avoir fait d'œuvre de la loi. Donc, la personne doit réaliser qu'elle est déclarée juste par Dieu à cause de l'œuvre de Dieu, à cause du sang de Jésus. On est tous déclarés justes par le sang de Jésus. Ça doit faire une partie de notre armure qu'on doit réaliser, puis qu'on doit la croire. Croyez-vous que vous êtes déclaré juste à cause du sang de Jésus? Que Dieu, quand il vous regarde, il voit le sang de Jésus sur vous. À cause qu'il voit le sang de Jésus sur vous, vous êtes des justes. Vous êtes pardonnés de vos péchés. Ça fait partie des pièces d'équipement d'armure qu'il faut croire. Ça protège votre cœur pour vous garder contre des attaques du diable. Philippiens 3:9, Paul, il s'efforçait d'être trouvé en lui, en Jésus, là. Non pas avec sa justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nous avons à s'efforcer à rester en lui afin qu'on ait de l'assurance puis qu'on puisse être sûr que je suis en Dieu à cause de Jésus puis à cause de ce que Jésus a fait. Puis cette justice-là que j'ai aujourd'hui, c'est à cause que c'est Dieu qui me l'a donnée, pas à cause de ma foi. Voyez-vous, là, cette armure-là est importante parce que si j'oublie ça, la minute que je fais un péché...
T'es mort.
Non. Tu manges une claque, tu revoles. T'as pas de protection, là. Si tu doutes dans ce que Dieu dit, t'as pas de protection, tu tombes dans le péché, les doutes viennent, puis là, après ça, tu te sens tout sale, tu te sens indigne, puis là, tu te sens plus que Dieu veut te tuer, tu te sens que t'es perdu, tu sais plus où aller. Non, non. Là, il faut revenir à la parole de Dieu qui nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu veut encore qu'on ait de l'assurance devant lui. Quand on va arriver devant lui, il faut avoir la même assurance que le jour qu'on a accepté. J'ai accepté Jésus, j'étais sûr que j'étais sauvé à cause de Jésus. Je l'ai accepté, puis à la fin, il faut que je sois encore dans cette assurance-là. Pas laisser l'ennemi de m'enlever ça, cette confiance-là. Il faut que je garde cette cuirasse-là. C'est dû aux promesses de Dieu. Puis ces promesses de Dieu-là, ça vient encore de la parole de Dieu. Dieu m'a promis que si je demande pardon, il me pardonne puis il me purifie. Je suis encore déclaré juste, pas à cause que je suis meilleur puis j'ai pratiqué ma religion, non. À cause de la justice qui s'obtient par la foi en Jésus. Amen. En l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux 11:7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, Noé, là, il n'a pas vu qu'il viendrait un déluge. Il n'avait jamais mouillé encore dans ce temps-là. Puis il a fallu qu'il croie quelque chose qui n'était jamais arrivé. Avec une crainte respectueuse, il a construit une arche pour sauver sa famille, puis c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Fait que Noé était déclaré juste à cause de sa foi. Puis il a obéi au Seigneur, il a fait ce qu'il avait à faire, puis Dieu le bénit en le sauvant, lui et sa famille. Voyez-vous, la justice, où ce qu'elle devient, vous avez besoin de la cuirasse de justice qui vient pas une assurance parce que vous pensez bon. Non, vous serez jamais capable de vous penser bon. Ou peut-être vous pouvez vous penser bon, mais vous ne l'êtes pas, parce qu'on est tous des pécheurs. Mais à cause de ce que Jésus a fait, par exemple, je suis déclaré juste par Dieu. Puis c'est dans cette foi-là que je dois marcher, qu'il va me donner une protection dans mon cœur pour rester ferme jusqu'à la fin. Dans notre marche, nous salissons continuellement notre robe par diverses désobéissances. Puis l'ennemi vient pour nous condamner dans notre cœur. Nous ne nous sentons pas dignes de continuer de servir le Seigneur. Mais il faut se revêtir de la justice de Dieu. Pas se présenter à Dieu avec notre propre justice, mais de se revêtir de sa justice. Nous avons été justifiés par Dieu, par la foi, au sang de Jésus-Christ. Cette cuirasse protège notre cœur. Gloire à Dieu. Troisième point de l'armure qui est important si un chrétien veut rester debout dans les combats contre le diable. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Là, je vais vous surprendre. Comme j'ai été moi-même surpris en étudiant ce verset, que le mot zèle qui est là dans le grec, C'est pas le mot zèle qu'on emploie dans d'autres versets. Louis II, il a écrit le mot zèle, là, mais ça n'a pas réellement rapport, c'est parce qu'il n'y a pas de mot français en un seul mot pour pouvoir désigner le mot grec qu'il y a là. Puis ça ne veut pas dire zèle comme excitation, puis être bouillant, puis être plein de zèle à vouloir avancer dans tout. Il y en a d'autres passages que ce mot-là, d'être excité, puis tout ça. Dans ce verset-là, le mot zèle qu'il y a là, c'est le mot étéoïmasia, traduit par zèle, mais ce n'est pas le vrai mot qui aurait dû être là. Ça veut dire l'action de préparation, le fait d'être prête. La condition d'une personne ou d'une chose qui est préparée, est prête et disponible. C'est ça qui est le vrai sens du mot. Ayez à vos pieds le fait de vous sentir prête par l'Évangile. À cause de l'Évangile de paix, vous vous sentez, vous êtes prête. Ça vient, puis ce mot-là qui est là vient d'un autre mot qui veut dire se préparer, se réserver, disposer, tenir prêt ou être propre. Puis dans les versets que je vais vous sortir, qui sont le même mot grec là pour nous faire comprendre le sens, là, dans Matthieu 24, 44, ça nous dit « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. » Mais le « tenez-vous prêt », c'est d'être prêt à attendre le retour. C'est ça le mot qui va là, de sentir prête. Si je me sens prête, c'est parce que je suis déjà comme déjà préparé. Disposé. Je suis déjà disposé, je suis déjà préparé, j'ai déjà tout comme cette assurance-là que tout est accompli, puis tout est prêt pour que ce retour-là revienne. Voyez-vous? Dans un autre passage, qui a le même mot, nous aide encore à comprendre, dans Matthieu 25, 10, ça parle des 10 vierges, ça dit, pendant qu'elle allait en acheter, il s'en allait chercher de l'huile parce qu'il y en avait 5 qu'il n'avait pas, l'époux arriva, celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Celle qui était prête, c'est encore le même mot qui est là, qui veut dire être prête. T'es pas juste disponible, c'est que t'es prête, que quand la porte rouvre, t'es déjà prête, tu t'en vas. C'est fait. Un autre passage dans Tite 3.1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prête à toute bonne œuvre. Être prête à toute bonne œuvre, c'est qu'à chaque moment de ta vie, t'es prête. C'est ce qui fait une différence dans des fois... Quand on dit, ah, ben là je suis pas vraiment prête, là ça me, je pense qu'il y a de quoi qui est pas encore réglé dans ma vie, où j'ai pas encore confessé telle et telle chose, puis on se sent pas prête. Mais le contraire d'être ça, c'est de savoir qu'on est prête en tout temps. Le dernier passage, 1 Pierre 3,15, qui pour nous parler encore dans le même sens, mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prête à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Un chrétien qui est affermi, un chrétien solide, qui est revêtu de l'armure du Seigneur, là, il se sent prêt. Si le Seigneur s'en vient aujourd'hui, je suis prêt. Ceux qui marchent dans le péché, là, puis qu'ils perdent cette certitude-là intérieure. Puis ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, mettez à vos pieds le zèle, mais si on prend le vrai sens en plusieurs mots, mettez à vos pieds de vous sentir toujours prête par la parole de Dieu. Dieu nous donne plein de promesses dans sa parole que quand tu es en règle avec lui, tu as beaucoup d'assurance, puis tu es prête. Il peut arriver aujourd'hui, je suis prête. Il peut arriver quelqu'un pour que je témoigne, il faut que je sois prête. Mais ce feeling-là, c'est la parole de Dieu qui peut me rendre comme ça. C'est la parole de Dieu, si je suis basé, ma vie est basée et enracinée dans la parole de Dieu, je me sens prête. À chaque jour, je réalise que je fais un péché, je demande pardon au Seigneur parce que je sais que dans la parole de Dieu, ça me le dit, demande pardon, il te pardonne, il te purifie, tu es encore déjà prête. Tu es tout le temps prête. Puis quand que le Seigneur va revenir, on sera pas... Il y avait un verset que j'ai pas mis, que nous sentirons pas confus et éloignés de lui lorsqu'il apparaîtra. On va sentir vraiment, solidement, ancré en Jésus-Christ, marchant par la foi, persévérant dans ce qu'il nous demande, puis on s'en prête à n'importe quel moment, je suis prêt à m'en aller, Seigneur revient. Prête pour le combat aussi quand que le diable vient. Il faut que vous soyez prêts, puis c'est la parole de Dieu qui peut vous rendre comme ça. Quatrième point, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors juste avant d'aller plus loin, des traits enflammés. Qu'est-ce qu'un trait enflammé? Qu'est-ce que ça veut dire, un trait enflammé?
Les attaques.
Mais un trait, ça sera comme une flèche, une lance. Quelque chose qui piquait, là, puis qui te plante dans le corps. Une flèche enflammée, quand tu reçois ça, ton cœur est empoisonné. Tu deviens amer, critique, chiale. Il y a juste besoin, là, ça vient, là, je l'ai expérimenté il y a quelques fois dans ma vie, c'est juste une parole que tu reçois de quelqu'un des fois. Oh, qu'est-ce qu'elle te dit, là? Tu te sens reviré à l'envers, tu te sens étourdi. Tu te sens, là, comme t'en as pour la journée, peut-être 2-3 jours, t'en reviens pas, puis t'es... Mais ça, là, tu vois que c'est pas normal, t'as entendu cette parole-là une autre journée, ça te dérange même pas d'entendre des affaires de même, mais cette fois-là, cette personne-là t'a dit ça, puis tu t'es senti empoisonné, ça en est un exemple de trait. Ça prend quelque chose qui va empêcher que ça t'atteigne. Ça prend un bouclier de la foi. Un bouclier, là, c'est un gros bouclier, selon le grec de ce mot-là. C'est quasiment comme une porte. Le sens du mot, là, qui est là pour bouclier, là, ça vient d'un mot qui vient comme une porte. Ça veut dire que c'est quelque chose de gros qui te protège. Une grosse porte devant toi qui est là pour te protéger contre les traits du malin. Ça m'est arrivé une autre reprise, une fois que j'avais reçu, je le savais pas, je l'ai appris cette fois-là, que j'ai été pendant des années à avoir mal dans une jambe. Puis là, je savais pas pourquoi que j'avais mal, mais j'avais toujours mal dans la viande de mon arrière de jambe. Puis là, il y avait une femme qui a le don de prophétie, qui était à l'église cette journée-là, puis j'avais été dire ça, puis je sais pas qu'est-ce que j'ai. Ça fait des années que j'ai ça, puis je savais pas c'était pourquoi. Puis elle a juste mis sa main proche, là, elle a juste fait une petite prière, tac, ça a disparu. Là, elle me dit, c'est un dard de l'ennemi. Donc, j'ai compris que les flèches empoisonnées, ils atteignent pas juste le cœur, ils atteignent des parties du corps. Que là, tu peux avoir des douleurs dans ton corps, puis ça soit un dard de l'ennemi. Une de ces flèches qui t'a lancé, tu sais pas, t'endures ça à l'année longue, puis tu te rends pas compte que ça peut être, c'est spirituel et non pas physique. C'est pas comme une maladie que tu as une infection puis des affaires de même, mais tu as mal, il y en a qui vont dire que c'est un mal psychologique, mais en réalité, ça existe des traits du malin dans notre corps, puis qui nous font souffrir. Puis qu'on peut, par la foi, juste l'offrir au Seigneur, puis demander au Seigneur d'enlever ça, puis il va l'enlever. Faut comprendre que l'ennemi, il est rusé, il sait comment nous attaquer ou ce que ça nous affecte, puis il faut être prudent. Puis juste que ça nous dit là-dedans, qu'avec le bouclier de la foi, tu vas être capable de les éteindre. Quand que le feu est pogné, ça presse que ça soit éteindu. Hébreux 11:1, ça nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. C'est une ferme assurance. Ah, j'ai la foi en Jésus-Christ. Ah, ben, y es-tu vraiment venu? Non, ça, c'est pas une ferme assurance. Oui, je le sais qu'il est venu, je le sais qu'il a fait telle et telle chose, puis je suis convaincu, puis je l'ai reçu. Ça, c'est de la ferme assurance. Puis il faut arriver à cela, frère et sœur, avoir une ferme assurance dans les promesses de Dieu. Faut les connaître, puis il faut les appliquer quand c'est le temps. Faut être sûr. L'ennemi, lui, sa spécialité, c'est le doute. Y a-tu vraiment dit ça? Oh, attends une minute, là. Là, tu te poses des questions. Là, ça t'ébranle. Ce doute-là, c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Mais nous autres, faut marcher dans la foi. Tu vis un poison, là, ton âme est empoisonnée par une parole, tout de suite, tu peux déjà demander au Seigneur d'enlever ça, puis de chasser ça dans le nom de Jésus. Tu vas être capable de rejeter les dards de l'ennemi. C'est une ferme assurance, puis c'est une démonstration, la foi. On voit ça dans Hébreux 11, 1. On voit dans Hébreux 4, 2 aussi, que cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ça veut dire que la parole de Dieu, tu peux la recevoir, et qu'elle n'ait pas d'effet sur ta vie si tu n'as pas la foi pour la recevoir. Fait que, il faut que tu aies la foi, une ferme assurance pour recevoir les versets que tu entends. Sinon, elle n'aura pas d'effet dans ta vie. Il y a des gens que ça leur est arrivé. Puis dans 1 Corinthiens 16, 13, ça nous dit, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit s'encourager à rester ferme dans la foi, avec une pleine certitude de ce que Dieu a promis, et de se servir des versets pour combattre le diable et ses ruses. Vous irez lire les combats de la foi, des vaillants héros de la foi qu'on voit dans Hébreux 11, à partir du verset 32. Des gens qui ont marché, que par la foi ils ont fait ci, par la foi ils ont fait ça, par la foi ils ont fait ça. Puis là, vous allez voir que c'est par la foi qu'ils avançaient, puis qu'il y a les choses miraculeuses qui se sont produites dans leur vie. On va aller lire rapidement de prendre le casque du salut. Dans Colossiens 3, 1, 2, ça dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre. » Le casque du salut, hein, qui d'entre vous est sûr qu'il est sauvé? Qui a cette pensée dans son esprit, dans sa pensée, là, dans sa tête? Je suis un sauvé, je m'en vais dans la vie éternelle. Dieu m'a sauvé à cause du sang de Jésus-Christ, etc. Ça, quand tu le sais, pour pas perdre cela, tu as besoin de te renforcer. Pour te renforcer et te garder dans la foi de ce que tu es sauvé, tu as besoin d'avoir les yeux sur les choses d'en haut. D'où viennent les choses d'en haut? Dans la parole de Dieu. Plus que tu vas te nourrir de la parole de Dieu, plus que ça va te protéger dans tes pensées, pour garder tes pensées en Jésus-Christ. C'est ce que ça nous dit. Puis que dans 1 Jean 2, 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, vous ayez de l'assurance. Puis là, qu'à son avènement, vous ne soyez pas confus et éloignés de lui. » Pour être sûr que tu as le casque du salut, là, puis que tu gardes cette pensée-là, tes pensées dans ton salut. Tu as une foi, mais tu ne laisses pas rentrer le doute. Tu dois t'armer de la parole de Dieu. Ça revient, la plupart de toutes les armures, les points de l'armure viennent de la parole. Plus qu'on va se nourrir de la parole, plus tu vas te fortifier dans le Seigneur, puis tu vas être ferme. Malheureusement, comme j'ai dit, il y en a qui se rendront pas jusqu'à la fin, à cause qu'ils n'ont pas gardé la foi dans ce qui les était annoncé. Un dernier point, qui est encore une autre partie qui provient de la parole de Dieu, c'est de prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ça, cette épée-là, c'est une épée qui nous permet de combattre. Quand tu te bats à l'épée, là, l'épée a deux fonctions. Quand il y en a un qui te donne un coup, tu pars ton épée. Là, tu peux bloquer son coup. Ça, c'est tu te défends avec une épée. C'est un arme qui défend, puis c'est un arme qui attaque. C'est un arme offensive et défensive. Puis en plus de ça, ce qu'on doit savoir, comme dans Hébreux 4:12, ça nous dit que la parole de Dieu, ça c'est la Bible, là, les enseignements de la parole, est vivante, est efficace, est plus tranchante qu'une épée à quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusque dans l'âme et l'esprit, jusque dans les jointures et la moelle, puis elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Paul nous dit dans ce passage-là de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est le devoir de chaque chrétien d'apprendre à connaître la Bible. On revient encore comme les autres points, là. Tu as besoin de connaître la Bible pour te défendre puis pour attaquer. Les religions, c'est des spécialistes de tordage de versets qui mènent à la perdition. Ils essayent d'emmener ta pensée et ta foi sur des enseignements qui sont pas bibliques, à mettre ta foi en d'autres choses. Ce qui fait que tous ceux qui écoutent leurs enseignements sont perdus. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu, puis ce qu'il y a d'écrit là-dedans, c'est que le message du salut est à travers Jésus-Christ, puis il n'y a pas d'autre moyen que ça. Mais la minute qu'une religion vient, puis elle a dit, oui, mais il faut que tu fasses que, puis là, ils en rajoutent dans leur tradition, puis leur règlement, puis qui fait que tout le monde pense qu'il y a d'autres choses qui les sauvent, plutôt que de croire que c'est Jésus-Christ seul. Puis quand c'est le temps de la mettre en pratique, ou que ce soit encore des choses qui sont écrites dans la Bible, et non pas de pratiquer des choses qui n'est pas écrites comme, mettons, s'agenouiller devant des statues ou des images supposées saintes, ça sert à rien, puis c'est même une horreur à Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est un péché grave. Puis qu'est-ce qu'on est en train de faire? On sacrifie à des démons, et non à Dieu. Puis il dit, je veux pas que vous soyez en communion avec les démons, fait que... Il y a des religions qui enseignent des choses qui amènent les gens à être souillés par des démons tous les jours de leur vie. C'est grave. Il y en a qui pensent que c'est pas grave. C'est excessivement grave. Dieu dit de sortir de là. Il n'y a rien, un chrétien n'a pas d'affaire là. Mais les religions trompent le monde, trompent nos familles, trompent nos amis, puis entraînent le monde où? Dans l'étang ardent de feu et de soufre. Le salut est en Jésus-Christ seul, puis quand Dieu dit « faites pas ça », faut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Puis si Dieu dit « faites ça », faut le faire parce qu'il y a des bénédictions quand on obéit à la parole de Dieu. C'est pas les religions ou les pensées mensongères qu'il faut écouter. Faut toujours référer qu'est-ce que la Bible a dit de telle et telle chose. C'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Il faut pas laisser une autre personne arriver à vouloir nous laisser un bâton dans les mains. Ça n'a aucune puissance. Les mensonges, les doctrines mensongères, c'est des bâtons. Ça sert à rien devant Dieu. Nous, c'est l'épée de l'esprit. Puis c'est avec cette épée-là que Jésus a combattu le diable, qu'on voit ça dans Matthieu 4, au verset 9, ça nous dit, le diable qui est venu pour attaquer Jésus, puis il a dit une chose. Puis là, Jésus, au verset 10, il a dit, « Retire-toi de Satan, car il est écrit. »« Retire-toi, Satan, car il est écrit. » Il est écrit. C'est quoi qui est écrit? C'est où que c'est écrit? C'est dans la parole de Dieu. Il est important qu'on sache ce qu'il y a dans la parole de Dieu, parce que c'est écrit. À cause que c'est écrit, c'est ça qui va s'accomplir, c'est ça, avec ça que tu peux frapper, avec ce qui est écrit. Il est important qu'on connaisse ce qui est écrit. Parce que s'il n'aurait pas su qu'est-ce qui est écrit, il aurait écouté le diable. Puis il aurait dit, mais ça a de l'air logique, ça a de l'air vrai. Puis il aurait suivi cette fausse doctrine-là, ou ce faux enseignement-là, ou cette suggestion satanique. Puis le diable, il est rusé. Il a ses tactiques, puis il va entraîner les chrétiens à d'autres choses. Si nous ne sommes pas déjà dans la recherche d'être fortifiés dans la prière et l'étude de la parole, l'ennemi, dans sa ruse, nous attaquera. Mais nous devons rechercher les éléments de cette armure du chrétien pour être capable de résister et de tout surmonter en devenant efficace dans la prière. C'est la prière et l'étude de la parole qui devraient être la base pour tout chrétien si on veut être équipé. Parce que ça nous dit, dans Éphésiens, quand je reviens au premier verset, puis je finis avec ça, Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Y a-tu moyen de tenir ferme contre les œuvres du diable sans recourir aux armes de Dieu? C'est impossible. Moi, j'ai ma responsabilité dans ma vie de rester là-dedans. Chacun de vous a cette responsabilité à rester là-dedans. Puis le verset aussi dans Éphésiens, dans le même passage qui dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Qu'est-ce qui va vous faire que vous allez avoir la victoire dans votre vie? Qu'est-ce qui va faire que j'allais tenir ferme après avoir tout surmonté? Parce que c'est la parole qui va vous équiper. Vous allez avoir les armes pour pouvoir attaquer. Prions. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, que tu nous donnes ce matin, qui nous parle de tes armes, qui proviennent surtout de ta parole. C'est de la puissance de Dieu, c'est été donné aux chrétiens pour qu'on puisse marcher, s'équiper, l'apprendre, s'en servir pour rester ferme dans toutes les manœuvres du diable, contre toutes les manœuvres du diable. Nous voulons combattre, nous voulons résister, puis nous voulons tenir ferme. Équipe-nous, Seigneur. Donne-nous le goût de prier et aussi d'étudier ta parole, de l'apprendre, puis de la méditer jour et nuit, qu'on puisse rester ferme dans tes promesses. Je te remercie de ce que tu vas faire dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.